Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous parlez de Balthus, c'est parler d'un peintre à la fois très important, mais aussi un peintre qui est absolument inconnu de l'histoire de l'art. Prenez tout livre sur l'histoire de l'art au XXe siècle, vous trouverez à peine une mention de Balthus. Pourquoi ? Parce qu'il n'appartient pas à un courant. C'est un peintre individuel, c'est un peintre solitaire, il est donc ignoré. Une petite mention peut-être si l'on veut partir au niveau des artistes. Dans ce cas-là, si vous cherchez quels sont les grands artistes qui vivent en France et qui ont vécu en France au XXe siècle, tout de suite vous allez me répondre Picasso, éventuellement vous allez me répondre Matisse, Dubuffet, et puis c'est tout. Balthus, la plupart du temps, est ignoré. Pourtant, Balthus est absolument important. Il est considéré, ne serait-ce par exemple que par Picasso, comme son seul, pas rival, mais son seul équivalent. C'est donc manifestement un peintre très important. Balthus, c'est un jeune homme élégant, un dandy romantique. Il est né en 1908, il est né à Paris, ses parents sont allemands tous les deux, ses parents sont artistes, Eric Klossowski, son père, et sa mère Baladine, sont tous les deux des artistes peintres, son oncle est peintre, ils vivent à Paris, il est né à Paris, il est allemand. 1914, la famille est obligée de regagner l'Allemagne, et Balthus ne reviendra en France qu'en 1924 avec sa mère. Ses parents divorcent en 1917. Éric Klossowski va alors revenir en France après la Première Guerre mondiale et s'installer à Sanary, où il y aura un foyer d'artistes allemands pendant l'entre-deux-guerres. Baladine, sa mère, va partir s'installer en Suisse, à Berne, puis à Genève, et ne reviendra à Paris qu'en 1924. C'est donc à cette date, il a 16 ans, qu'il prend la nationalité française. Voilà, donc Klossowski est français. Il a un frère, Pierre, vous voyez ici son frère aîné, 3 ans de plus que Balthus. Ce frère aîné, Pierre Klossowski, deviendra écrivain, théologien, mais surtout écrivain. Deux livres célèbres de lui, Roberte ce soir et La révocation de l'édit de Nantes, qui est tout sauf un livre historique. Des livres très, très particuliers. Et Roberte ce soir est un livre illustré. Pierre Klossowski avait demandé à son frère, en 1953, d'illustrer ce livre. Balthus n'a pas réussi à se mettre dans l'esprit de son frère, et c'est donc Pierre Klossowski qui a lui-même illustré son propre roman. Vous voyez ici un dessin de Pierre Klossowski. On le retrouvera un tout petit moment. Donc, Balthus maintenant, puisque son prénom c'est Balthazar, il prendra le nom d'artiste de Balthus, c'est l'ami de sa mère Baladine, qui fut Éric Maria Remarque, qui a conseillé à Balthus de prendre ce nom d'artiste, donc de Balthus, en faisant bien attention de se différencier au niveau des lettres d'un peintre belge qui s'appelait Balthus. C'est pourquoi il a mis un H à son nom, ce qui n'était pas prévu au départ. Balthus, comme vous avez vu son nom, c'est Balthazar Klossowski de Rola. Il est donc d'origine polonaise. La Pologne n'existait pas vraiment, vous le savez, la Pologne n'existait pas. Et donc, il était de nationalité allemande. Mais d'une lointaine famille de Rola venait une noblesse, une petite noblesse polonaise. Et alors que son père, Éric Klossowski, a utilisé ce titre de noblesse, on le sait puisqu'on a retrouvé les lettres de son père, les lettres de son père où il y a le sceau nobiliaire, son frère aîné, Pierre, auquel revenait le titre de noblesse, n'a jamais revendiqué cette noblesse. Alors que, et c'est là un aspect un peu déplaisant de Balthus, Balthus ne cessera de revendiquer ses origines aristocratiques. À partir de 1962, paraît-il, il n'ouvrait pas son courrier s'il n'y avait pas écrit « Monsieur le Comte ». Et, lorsqu'on va le voir, il devient le directeur de la Villa Médicis à Rome. Les employés de la Villa de Médicis devaient toujours l'appeler « Monsieur le Comte ». Donc il y a une prétention aristocratique anormale, puisque le titre de comte ne lui revenait pas, mais revenait à son frère aîné, pour Balthus. Et on va voir un peu ce décalage très étonnant, très très étonnant, entre une peinture dont les sujets n'ont rien d'aristocratique et ses prétentions de Balthus. Balthus, qui va d'ailleurs vivre dans des lieux assez nobles, hein, puisqu'en 1953, il s'installe dans la Nièvre, près du lac de Pansière, à Chassy, dont vous voyez ici le château, qu'il va acheter peu de temps après. Un château en très, très mauvais état, sans aucun confort, et qu'il a cependant acheté. Il vivra de 1953 à 1961 dans la Nièvre, puis en 1961 il est nommé directeur de la Villa Médicis à Rome, où il restera, il est nommé par André Malraux, hein, où il restera jusqu'en 1977. Pendant cet intervalle romain, il achète un château à proximité de Viterbe, pas très loin de Rome, un château également en très mauvais état, mais un château quand même, et d'ailleurs il ne pourra pratiquement pas l'habiter parce que sa santé ne lui permettra pas. 1977, il quitte la Villa Médicis à Rome et s'installe au chalet de Rossinière, le plus beau chalet de Suisse, une auberge de plus de 50 chambres qui était à vendre, également en très mauvais état, mais avec, disons, la vente de 4 ou 5 tableaux, il a pu acheter ce superbe chalet où il retrouve les lieux de sa prime jeunesse, puisqu'il a beaucoup vécu dans la région de Berne lorsqu'il avait 10-12 ans. C'est donc dans ce chalet de Rossinière que Balthus finit sa vie. Vous voyez ici la photo prise par Henri Cartier-Bresson en 1990. Balthus avec sa femme japonaise Setsuko, qu'il a rencontrée lors d'un voyage au Japon avec André Malraux en 1962. Sa fille Harumi, née en 1971. Et donc la photo finale où on le voit dans son atelier avec la dernière œuvre qu'il a peint. En dehors maintenant des étapes de sa vie, on voit des lieux où il a vécu, un petit tour sur ses amis. Voilà ici une photographie de 1954 où l'on voit Balthus au centre avec le peintre de Rhin et Giacometti à droite. Deux amis qui ont été les amis les plus proches. Il avait très peu d'amis, hein, mais parmi les artistes, ce sont les deux amis les plus importants pour Balthus. À partir de juin 2017, le Musée d'Art Moderne à Paris organise une exposition de Rhin, Balthus, Giacometti, justement. Ami aussi, mais beaucoup plus difficile, c'est évidemment, comme je vous l'ai déjà cité, c'est Picasso. Picasso, pour lequel Balthus voue une admiration, il admire très peu de monde, hein. Il voue une admiration sans borne à Picasso, qu'il considère comme son seul grand rival. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce tableau ici peint en 1937 par Balthus, des enfants Blanchard. Les enfants Blanchard, ce sont des enfants qui vivaient à l'endroit où il habitait. En 1937, il habite dans la cour de Rohan, dans le quartier de l'Odéon à Paris. Et les enfants Blanchard vont souvent poser pour lui entre 1935 et 1939, hein, on a 11 tableaux, puis après les enfants Blanchard vont disparaître et même mourir pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce tableau a été acheté par Picasso. 1941, Picasso, donc fasciné par ce tableau, l'achète. Il est visible maintenant au musée Picasso à Paris. On voit à travers ce tableau, j'y reviendrai bien sûr, deux caractéristiques de l'art de Balthus. des positions toujours absolument inconfortables, et d'autre part, des scènes figées. Cette impression un peu de mouvement figé est une de ses caractéristiques propres. Il aime Derain, il aime Giacometti, il aime Picasso, voilà en revanche ce qu'il déteste. Il déteste le surréalisme, tout en détestant, c'est un peu rapide, parce qu'en fait il a été un peu lié avec le surréalisme, il était lié avec Breton. Il déteste l'abstraction, alors là, pas de contestation, c'est un rejet fondamental de l'abstraction. Donc, il aime le figuratif. Or, vous voyez pourtant qu'il déteste Chagall, il déteste Bernard Buffet, tout simplement parce qu'il estime qu'il se répète. Il estime que Chagall, toute la fin de sa vie, n'a fait que du Chagall. C'est ainsi d'ailleurs, par exemple, qu'il reproche à certains peintres leur évolution. Il aime bien le piètre Mondrian de sa jeunesse, les arbres de Mondrian lui plaisent beaucoup, mais son évolution vers l'abstraction ne lui plaise plus du tout. Donc, il a beaucoup de certitudes concernant son art, sa façon de peindre. Il vient à Paris à partir donc de 1924, il a des finances très limitées pendant longtemps. Il va donc multiplier quand même les travaux, disons, pour lui permettre de gagner de l'argent. Il va devenir décorateur de théâtre, avec un relatif succès quand même dans les années 30. Voilà ici, en 1948, une photographie où on le voit avec Albert Camus, puisque vous voyez sur l'affiche du Théâtre Marigny, les décors et les costumes sont de Balthus en 1948. Intéressant Albert Camus, parce qu'Albert Camus est un écrivain qui n'aime pas la peinture. Il n'a jamais rien écrit sur la peinture. Il dit dans des interviews qu'il aime la sculpture, mais la peinture, c'est pas du tout son modèle. Il n'aime pas ça. Et si vous prenez les œuvres de Camus, il a écrit un seul texte sur la peinture, c'est un texte consacré à Balthus, qu'il a écrit pour une exposition de Balthus à la Galerie Pierre Matisse à New York en 1949. Bon, cela dit, voilà déjà, je vous ai déjà dit des choses que Balthus ne supporterait pas que l'on dise de lui. Lorsqu'il y a eu une exposition à la Tate Gallery en 1967, les organisateurs de l'exposition lui ont demandé un texte, une préface pour le catalogue, et vous voyez ce qu'il a envoyé comme télégramme. La meilleure façon de commencer est de dire « Balthus est un peintre dont on ne sait rien, et maintenant, regardons les peintures. » Voilà. Et, bien sûr, on va voir que ces peintures, elles sont très liées à la vie de Balthus, mais il y a une évidence pour lui. Une œuvre d'art est indépendante de l'artiste, elle doit être appréciée absolument par elle-même. Balthus est un artiste absolument sûr de sa valeur artistique, fier de ses travaux, et jeune homme, à 25 ans, il va vouloir très rapidement devenir célèbre. Donc, il va organiser véritablement un choc. En 1934, est organisé dans la galerie Pierre, au mois d'avril 1934, pendant 15 jours, une exposition uniquement consacrée à Balthus. Cette exposition est composée de 7 œuvres. Voilà ici les 7 œuvres, c'est-à-dire que il y en a 5 de grandes et 2 petites, et on ne sait pas quelle était la 7e. Voilà, j'ai mis un petit cadre gris pour montrer que la 7e n'avait pas été retrouvée. Et ce n'est d'ailleurs que relativement récemment que l'on a estimé que la jeune fille en Amazon, ici, faisait partie de cette exposition de 1934 à la Galerie Pierre, qui est une exposition absolument fondamentale, parce que les œuvres présentées là sont des œuvres toujours majeures pour nous. La première de ces œuvres de l'exposition de 1934 que je vous présente, c'est la leçon de guitare. Bien. Alors, la leçon de guitare, auquel j'ai ajouté une lettre de Balthus à Antoinette de Watteville, qui deviendra sa femme en 1937. Ce tableau représente une leçon de guitare. Une jeune femme a donné une leçon de guitare à une petite fille, après quoi elle continue de jouer de la guitare sur la petite fille. Après avoir fait vibrer les cordes de l'instrument, elle fait vibrer un corps, entre parenthèses, car Lesbos m'a choisi entre tous sur terre pour chanter le secret de ses vierges en fleurs. Tu vois que je m'expose à être proprement insulté. Est-ce qu'il a été insulté? Ben, je vais vous dire tout simplement, l'exposition a eu lieu pendant 15 jours, elle n'a eu aucun succès. Il y a eu un seul critique qui a fait un article dans la revue de la LNRF. Coup de chance, c'est Antonin Artaud qui a fait cet article, mais c'est tout. Donc, je veux dire, la reconnaissance de Balthus, nous l'avons maintenant rétrospectivement. Alors, ce tableau, la leçon de guitare, est considéré comme choquant à l'époque. L'exposition était composée de deux salles, et il y avait la deuxième salle était uniquement réservée à cette leçon de guitare qui était cachée derrière un rideau. N'oublions pas que ce tableau va faire scandale longtemps. Il y a un peu plus de 30 ans, en 1983, il y a eu une rétrospective Balthus au Centre Pompidou à Paris. Ce tableau n'a toujours pas été autorisé à être présenté. Il a été présenté pour la première fois lors de l'exposition Balthus au Palais Grassi à Venise en 2001. Alors, c'est donc un tableau évidemment essentiel, déjà dans la volonté de choquer, bien sûr, de Balthus. Alors, que représente ce tableau? J'ai un temps d'avance. Que représente ce tableau? Une femme, qui est certainement la professeure de musique, qui, après la leçon de guitare, fait vibrer la jeune fille. Alors, c'est un tableau qui est choquant par le sujet. C'est une scène lesbienne, bien entendu, puisque lui-même, Balthus, l'indique. Il cite deux vers de Baudelaire tirés du poème Lesbos. Bon. Mais rien de précis là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Le piano, les spécialistes ont montré que ce qu'on commençait à avoir des touches ressemblait à tout, sauf à des touches de piano. Que la guitare était trop petite par rapport au corps pour être une guitare. Donc il n'y a aucune volonté de réalisme. Chose bizarre, cette jeune fille bien habillée, qui pourra recevoir une leçon de guitare, porte en revanche des pantoufles. Allez savoir pourquoi. Bon, le mouvement ici de violence de la jeune femme, auquel répond la jeune fille en touchant la pointe du sein de la femme, peut nous faire considérer ce tableau comme sadique. Et bien sûr, on va remettre ça en relation avec beaucoup d'œuvres des années 30 qui voient l'émergence quand même de gravures en liaison avec les récits de Sade. Et puis, Balthus, c'est un autodidacte, mais qui avait une bonne connaissance de la littérature anglaise, s'intéressait beaucoup aux romans noirs du 19e siècle anglais. Il n'en demeure pas moins qu'un autre spécialiste a découvert que l'oncle de Balthus avait peint un tableau avec le même papier peint, mais on n'a pas pu en tirer de conclusion autre, parce qu'évidemment, sur Balthus, les explications psychanalytiques qu'il refuse absolument fleurissent beaucoup. Ce tableau date de 1934. Une étude de 1949, donc 15 ans postérieure, reprend le même thème. Mais là, désormais, c'est un homme et qui tient les vêtements de la jeune fille entre les dents. Toujours un thème violent, toujours presque aussi sadique, mais une interprétation totalement différente dans la mesure où nous avons désormais un homme. Si nous ne pouvons pas dire plus grand-chose du sujet, on peut absolument trouver des sources dans la peinture de Balthus. Balthus est un peintre qui se met dans le courant de la peinture, des maîtres anciens. Il est allé en Italie peindre les fresques de Piero della Francesca à Arezzo. Il a peint les fresques de Masaccio à Florence. Il est, d'autre part, par un passé allemand et suisse, très influencé quand même par la peinture allemande. Donc, par exemple, vous voyez ici le lien absolument évident entre le tableau de Balthus et cette Pietà d'Enguerrand Carton dans la position du Christ. C'est absolument limpide. Certains ont vu dans ce tableau, d'ailleurs, la leçon de guitare, une ironie antireligieuse de Balthus, dont qui avait peint quelques années auparavant des fresques dans un temple protestant en Suisse, et elles avaient été, et ces fresques finalement avaient été détruites par la communauté protestante en 1933, un an avant qu'il peigne ce tableau. Donc certains sont allés jusqu'à cette interprétation sur laquelle on ne va pas revenir. Deuxième tableau de cette exposition de 1934, exposition clé, je le répète, c'est la toilette de Catti. Tableau donc qui nous présente un homme, un dandy, hein, habillé à la mode des années 1930, c'est Balthus, hein, il s'est représenté. Une jeune femme nue avec sa servante qui la coiffe. On repère tout de suite, hein, une des caractéristiques de Balthus, la déformation des corps, ces corps allongés, longilignes, ces têtes des fois disproportionnées par rapport au corps, qui nous rappelle la peinture allemande de Cranach, hein, des 15e et 16e siècles allemands. Cette toilette de Catti est un tableau qui fait absolument référence au Haut de Hurlevent d'Émilie Bronty. Balthus adorait le roman Les Hauts de Hurlevent. Il avait été publié en France en 1929, mais Balthus l'avait lu en anglais et adorait ce livre qu'il avait conseillé à sa fiancée Antoinette de Watteville. La toilette de Catti est donc en fait non pas un tableau réaliste, mais c'est un songe. Alors, je vous lis. Balthus explique son tableau. Catti est nue parce qu'elle est symbolique. De plus, le groupe qu'elle forme avec la bonne qui la coiffe est traité comme une vision, comme un souvenir évoqué par Heathcliff qui, au fond, est assis seul dans la chambre. C'est donc déjà un événement passé. La toilette de Catti fait référence à une scène très précise des Hauts de Hurlevent. C'est où Heathcliff, le héros du roman, qui est amoureux de Catti, la voit se préparer et pense qu'elle attend quelqu'un, finalement. Et effectivement, il va être absolument furieux de voir que Catti reçoit un prétendant, alors que lui l'aime beaucoup. C'est donc cette scène qu'il représente ici. La toilette de Catti fait absolument référence donc au Haut d'Hurlevent qu'à la même époque, justement, Balthus est en train de graver. Il va représenter les personnages des Hauts d'Hurlevent et il va échouer à illustrer vraiment le roman. Il ne pourra illustrer que la première partie, c'est-à-dire l'histoire d'amour entre Catti et Heathcliff. Et comme Catti meurt relativement rapidement dans le roman, on s'aperçoit que Balthus n'a jamais réussi à aller plus avant dans son travail. Ses gravures ont été présentées en 1935 dans la revue Le Minotaure. Le livre lui-même, Les Hauts d'Hurlevent illustrés, ne sera édité qu'en 1989 à Paris et en 1993 à New York. Donc, on voit déjà à travers ce portrait de Catti l'importance de la nudité chez Balthus. Et n'oublions pas ici que Catti, c'est sa celle qui va devenir sa fiancée. C'est Antoinette de Watteville. Antoinette de Watteville est la fille d'un colonel suisse que Balthus a connu très jeune. Il est très amoureux d'elle dans les années 30 et Antoinette hésite entre Balthus et la sécurité. La sécurité, c'est un diplomate belge de 10 ans plus âgé que Balthus auquel elle se fiance. Elle vit à Berne, Balthus vit à Paris. Et leur correspondance est marquée toujours par Balthus, qui est absolument angoissé et furieux de l'attitude d'Antoinette. Tous les livres sur Balthus ignorent à peu près cela, parce que la correspondance entre Balthus et Antoinette de Watteville a été publiée relativement récemment. Et évidemment, ce tableau, la toilette de Cathy, eh bien, dans quelques minutes, vous verrez que Antoinette ne l'a pas trop aimé. Elle n'a pas trop aimé d'être baladée nue dans les différentes expositions où ce tableau a été présenté. Donc, elle va un petit peu réagir. Troisième tableau de cette exposition clé, hein, c'est vraiment l'exposition clé de Balthus de 1934, Alice. Alice. Tableau qui a longtemps appartenu à Pierre-Jean Jouve, un ami proche de Balthus, qui a été absolument fasciné par ce tableau et qui l'a accroché dans sa chambre pendant une vingtaine d'années. Alice, c'est Alice dans le miroir. Donc, Balthus, qui aime la littérature anglaise, a deux références clés, Léo d'Hurlevent d'Émilie Bronty et bien sûr Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Donc Alice dans le miroir fait référence à Alice donc de Lewis Carroll. Nous sommes les spectateurs, donc nous sommes le miroir. Nous regardons Alice en train de se mirer dans le miroir. Un tableau avec Alice qui a un sein nu, comme on en trouve énormément dans toutes les peintures classiques des 16e, 17e, 18e siècles. En revanche, le pubis bien visible est quand même plus rare dans la peinture. D'autant plus qu'un dessin préparatoire à ce tableau montre que Balthus avait exactement mis le pubis de cette personne au centre du tableau. Donc dans un deuxième temps, il l'a légèrement décalé. Tableau érotique, si on veut, mais quand vous regardez les yeux d'Alice, on est plus souvent mal à l'aise que véritablement enjoué par l'érotisme de ce tableau. Un tableau dont on connaît absolument les tenants, puisque pendant l'hiver 1932-1933, Balthus, totalement déjà argenté, vit chez un ami de son frère, Pierre Léris, qui deviendra bientôt un grand traducteur de romans anglais et qui deviendra le directeur du Mercure de France. Et c'est donc Betty Léris, la femme de Pierre Léris, qui est représentée en tant qu'Alice. J'avais, par des traits bleus, vous voyez, recherché le centre du tableau. Un deuxième tableau, d'ailleurs, que j'ai mis à côté, représente justement ce jeune couple de Pierre et Betty Léris. Si vous regardez bien la composition, vous vous apercevez que la main de Betty est exactement dans l'axe de la main de Pierre. Ils sont liés, tous les deux. Et d'autre part, vous regardez la bouche de Pierre Léris, qui est directement à hauteur du pubis de Betty. Bon, ce ne peut être le hasard. Un petit point en plus. Repérer la chaussette rouge de Pierre Léris qui répond au rouge du corsage de Betty, et vous trouverez ici déjà un petit procédé que l'on reverra souvent chez Balthus, la tache de couleur pour égayer un tableau, pour lui donner une certaine force. Et enfin, nous arrivons au chef-d'œuvre incontesté de cette exposition de 1934, un des tableaux clés certainement du XXe siècle, un des deux tableaux fondamentaux de Balthus, la célèbre rue. Pour la rue, vous avez des dizaines d'analyses. Alors ce tableau, Premièrement, il est immense. Les autres tableaux sont déjà des tableaux conséquents, souvent 1m50 sur 1m80. Si je vous prends la rue, la taille, 2 mètres sur 2,40 m. Un tableau donc important, ce qui montre bien l'ambition de Balthus. Vous voyez les personnages. Alors, nous avons un jeune homme, un jeune homme avec tenant une jeune fille ici à gauche, un gnome au premier plan, avec un instrument qui n'est pas une raquette, qui n'est pas un miroir, personne ne sait de quoi il s'agit. Un artisan, certainement un charpentier, référence peut-être à un personnage de Lewis Carroll, on ne sait pas, une jeune femme de dos, un jeune homme, une nourrice avec un enfant dans les bras. Tableau que l'on peut localiser. Il habitait au début des années 30 près de la place Fürstenberg à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Il habitait en face de l'atelier de Delacroix. Et vous avez ici la vue en direction de la rue Jacob. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un dessin préparatoire montrant uniquement les lieux. Vous voyez, pas de ciel. Des fenêtres fermées, tout est clos. Un monde quasiment désespérant. Des personnages qui sont complètement figés. La référence, bien sûr, on pense tout de suite à la grande jatte de Seurat. Hein, mais alors que chez Seurat, les gens sont figés, ici, ils sont figés dans le mouvement. Premier personnage ici, personne ne sait de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un cuisinier? Est-ce que c'est une enseigne? Est-ce que c'est une marionnette? Car au début des années 30 à Paris, il y avait des enseignes marionnettes dans les rues, dans quelques rues de Paris. On ne sait pas. Personne ne peut expliquer le charpentier et la scène reste totalement inexplicable. Et dans une lettre à Antoinette, Balthus dit tout simplement « Il n'y a rien à dire de la rue ». Alors, que dire de la rue? Premièrement, on a une version antérieure de 1929, où il a déjà posé un peu les personnages. On voit quand même déjà ici une carriole avec un cheval, mais surtout ici un homme avec deux enfants qui va disparaître dans la version suivante. La version suivante, la voici avant qu'elle soit retouchée. Et vous voyez très nettement dans cette version de 1933 que le jeune homme a la main sur le pubis de la jeune fille. Tout à fait. Hein, nous sommes quasiment dans une scène de viol. Tant et si bien qu'à partir de cette scène de viol, certains historiens de l'art pensent que le jeune garçon ici s'apprête à faire le même geste vers la femme de dos et que la femme de dos a anticipé en lui préparant une claque. Bon, en tout cas, il voulait choquer, il choque. Mais 20 ans plus tard, l'acheteur de cette toile, qui est un Américain, parce que le fils d'Henri Matisse, qui a créé la galerie Pierre Matisse à New York, a acheté une bonne partie des œuvres de Balthus de cette période, les a installées dans sa galerie à New York, et c'est un Américain qui a acheté la rue. Et 20 ans plus tard, il demande à Balthus de le retoucher en disant quand même qu'il peut pas présenter ce tableau. Et donc, effectivement, Balthus a tout à fait accepté. Hein, et c'est dans la lettre que je vous ai mis en titre du paragraphe. Jadis, j'aimais choquer. En 1957, lorsqu'il retouche ce tableau, il remonte un petit peu la main, vous voyez. Hein. Un tableau donc qui est passé quand même un peu inaperçu à l'époque et qui maintenant nous apparaît comme une œuvre phare aux explications extrêmement complexes, sachant, je le répète, que Balthus refusera absolument tout commentaire sur ses œuvres. C'est un tableau incroyablement construit. Balthus utilise toujours un quadrillage précis. Dans certains de ses tableaux, on voit même le quadrillage, mais comme Balthus peignait, repeignait, souvent le quadrillage disparaît, bien sûr, sous les couches de peinture. Balthus reprenait ses tableaux pendant des mois, voire des années, ce qui fait que certains tableaux de Balthus pèsent plus de 120 kilos, parce qu'il revenait sans cesse sur le métier, changeait énormément de choses. Pour ici, vous voyez la construction extrêmement sophistiquée en triangle isocèle de la part de Balthus et les personnages, grosso modo, intégrés toujours au sein de cette construction extrêmement précise. Balthus fait toujours allégeance aux maîtres anciens, à la construction prônée par Vitruve dans l'Empire romain, où, bien sûr, Balthus reprend aussi les visages des artistes de la Renaissance qu'il a copiés. Vous voyez le grand spécialiste Jean Clerc dans un petit livre très sophistiqué, Les Métamorphoses d'Eros, prouve que les personnages de Balthus sont inspirés par Piero della Francesca ou par Masaccio, comme vous le voyez dans cet exemple. Tout le monde maintenant, tous les spécialistes, s'accordent avec Jean Clerc pour dire effectivement que cette vision est absolument exacte. La rue donc de Balthus est absolument influencée par les maîtres anciens. Hein, voilà ici l'élévation de la croix de Piero della Francesca. Et non seulement les personnages, mais aussi la composition. Une composition influencée par les perspectives de la Renaissance, mais d'autres spécialistes insistent beaucoup sur la culture de Balthus autodidacte, et en particulier une enfance suisse et allemande où il a été très influencé par les contes et légendes allemands. Et vous voyez ici, comme on reconnaîtrait un peu dans ces temps l'utilisation ici de la rue et des bâtiments, cette gravure du roi Casse-Noisette de Hoffmann. Donc, un Balthus qui est très influencé par les maîtres anciens, cela dit, Balthus, on ne peut pas le limiter à cela. Si être un bon peintre, un grand peintre, consiste à reprendre les maîtres anciens, ça ne fait pas un artiste. Donc Balthus, c'est autre chose. Autre chose, et nous allons donc quitter l'exposition de 1934 pour voir un Balthus peintre d'intérieur, avec des portraits majeurs. Bien sûr, par son milieu, hein, sa mère Baladine vient à Paris à partir de 1924, elle est la maîtresse de Rilke, le frère Pierre entre comme secrétaire d'André Gide. Ils connaissent tout un monde important, ce qui fait que Balthus va quand même vivre dans les années 30 grâce à des commandes, à des portraits. Donc des portraits qui sont en général pas passés à la postérité, on a un peu l'impression que ce fut du gagne-pain. Ces deux portraits, en revanche, sont beaucoup plus intéressants, même si ce sont des commandes. Mais là, ce sont des commandes de son galériste. Portrait de Derain en 1936, portrait de Miro en 1937. Deux artistes que Balthus aimait beaucoup, quoique Miro en 1937, il aime beaucoup, mais bientôt il ne va plus l'aimer, parce qu'il trouve que, après, Miro fait du Miro. Donc il trouve que Miro n'évolue pas. Ce portrait de Derain est un portrait qu'on pourrait dire le peintre dans son atelier. Vous voyez les châssis d'étoiles à gauche. Derrière Derain, vous avez sa nièce, Geneviève, que Derain aimait beaucoup. On a plus de 100 portraits de Geneviève. À droite, Miro et sa fille Dolores, qui ont posé plus de 40 fois pour Balthus. Ce portrait de Derain, on va le mettre en relation, inconsciente certainement, avec la statue du Balzac de Rodin, que Rodin a présentée en 1900, mais qui depuis cette date est exposé uniquement dans sa maison de Meudon, et ce n'est qu'en 1930 que le Balzac de Rodin est coulé en bronze et installé en 1930 à Anvers. Il faudra attendre 1939 pour qu'il soit installé à Paris. On a donc ici manifestement un lien à travers cette robe de chambre qui va jusqu'aux pieds, ces pieds que l'on voit un tout petit peu chez Derain, qu'on ne voit pas chez Rodin. Balthus, quand même, bon, manifestement, s'est un peu intéressé à Rodin et Balzac. On le voit à travers le dessin qu'il fait en 1947 pour un livre de chez Skira. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un historien de l'art américain a fait toute une étude pour montrer que dans les portraits, les peintres utilisaient des références anciennes. Et il a montré que le portrait de Derain était absolument sorti d'un autoportrait de Poussin, de 1650. Et on sait bien sûr que Balthus, en dehors de l'Italie, a passé beaucoup de temps à copier au Louvre différents tableaux de Poussin, un peintre qu'il admire. Cet autoportrait n'est pas à Paris, il est à Berlin. Est-ce le hasard? Est-ce que ce n'est pas le hasard? Poussin passe son autoportrait à 56 ans et Derain à 56 ans. Y a-t-il un lien, un choix de la part de Balthus? On ne sait pas. Si Balthus est influencé par Rodin, en revanche, là, c'est le photographe Irving Penn, en 1948, hein, qui fait un petit clin d'œil au tableau de Balthus de 1937, représentant Miro et sa fille. Un tableau où l'on voit toute la tendresse entre le père et la fille, qui se manifeste par la main ici de Miro sur sa fille Dolores, et la tendresse de la main ici de Dolores sur son père. Un tableau qui nous paraît très tendre, très réussi, il a été commandé à Balthus pour les 50 ans de Miro par son galériste Pierre Loeb. Un tableau qui est intéressant par le fait qu'il est découpé entre deux couleurs. Vous allez me dire tout simplement, bon, ben c'est le sol et le mur. Mais si on regarde bien ici, il y a la photographie n'est pas très bonne, il y a un tout petit ray de lumière qui crée une différence entre les deux parties. Alors Dolores, la fille, ça, je vous raconte ça entre quatre yeux, la fille de Miro a détesté poser pour Balthus, il était absolument odieux, il la menaçait de l'enfermer dans de la toile de jute. Hein. Et d'autant plus que, comme vous constatez, une des caractéristiques de Balthus, ce sont ses positions extrêmement inconfortables. Et elle ne supportait pas de poser avec la pointe des pieds qui ne reposait pas par terre. Finalement, devant ses plaintes, Balthus a planté des clous pour lui permettre de poser quand même le pied, d'être un peu mieux assise pour les séances de pose, dont elle garde, je le répète, un très mauvais souvenir. Deux autres portraits de Balthus, là aussi des portraits importants, parce que Balthus peint des gens qu'il aime, qu'il connaît bien. Tout d'abord, ici à gauche, Pierre Matisse. Pierre Matisse, c'est le fils du peintre Henri Matisse. Hein. Il est né en 1900, il meurt en 1989. En 1928, il s'installe à New York et crée la célèbre galerie Pierre Matisse, qui va faire connaître aux Américains beaucoup de peintres français du XXe siècle. Pierre Matisse est représenté ici dans un ravissant camailleux de gris. C'est un très beau travail sur la couleur. Et vous repérez bien sûr la chaussette rouge, hein, cette tache de couleur qui est une sorte de, je ne vais pas dire de facilité, mais hein, qui est assez récurrent chez Balthus quand il veut, pas colorer son tableau, mais donner un point de fixation sur le tableau. À droite, un tableau d'un collectionneur de Balthus, Claude Hersin, qui posait dans l'atelier de Balthus. Il y faisait épouvantablement froid, donc il gardait son manteau. Eh bien, Balthus a transformé le manteau en robe de moine avec un capuchon. Quand Claude Hersin lui a demandé pourquoi vous avez fait ça, il a répondu, comme ça. Il a refusé de lui dire pourquoi il l'avait transformé en robe de moine. Le collectionneur lui a demandé aussi pourquoi il y avait une petite pomme qui était sur le meuble de gauche. Même réponse de Balthus, vous ne le saurez pas. Voilà, pas de réponse, certainement pour des questions d'espace de couleur, bien entendu. Originalité de ce tableau de Claude Hersin, le visage est dans l'ombre. Donc, des tableaux importants quand même, qui sont liés au milieu artistique de Balthus, mais bien sûr, celle qu'il va peindre assez souvent, c'est sa femme, Antoinette. Antoinette, je vous l'ai dit, était fiancée avec un diplomate belge. Finalement, en 1935, elle rompt avec le diplomate belge et va donc épouser Balthus en 1937. Elle vient alors vivre à Paris avec lui dans le quartier de Saint-Sulpice. Voilà ici une jupe blanche de 1937 qui est un tableau qu'on pourrait dire bien léché, bien peint, un tableau classique avec son grand rideau ici, avec ses pantoufles brodées qui sont soigneusement peintes, comme c'est un cadeau que Balthus lui avait fait. Il s'est dit, je vais les peindre soigneusement. En revanche, il l'avait peinte les seins nus, et là, Antoinette lui a dit, non, quand même, ça suffit, je veux maintenant quand même être représenté avec les seins couverts, ce qui nous vaut d'ailleurs un ravissant soutien-gorge et tout un ensemble de dégradés autour du blanc que la reproduction rend mal. 1937, c'est donc la victoire de Balthus avec son mariage avec Antoinette. Antoinette qu'il va peindre assez souvent, comme vous le voyez ici, trois exemples, la jupe blanche de 1937, la femme à la ceinture bleue également de 1937, le chapeau bernois de 1939. Elle était originaire de Berne et c'est le chapeau traditionnel des paysannes bernoises. Alors ce qui est intéressant ici dans ces tableaux, c'est que vous voyez ici un tableau, un tableau inscrit dans une diagonale que l'on retrouve ici, la diagonale, hein, opposant, vous voyez ici, lumière et ombre, avec cette diagonale par le nez, et vous avez en revanche ici la construction pyramidale classique des grands maîtres de la Renaissance. Donc, construction bien définie, tableau autour d'une couleur, le blanc, la ceinture bleue, le jaune du chapeau ici. Une Antoinette souriante ici, peinte soigneusement, une Antoinette maussade, la même année, et donc peinte à gros traits. Oui. S'il peint Antoinette, ça va s'arrêter assez rapidement, puisque la mésentente sera relativement rapide et il se sépare en 1946, après la guerre. Il va se peindre aussi, mais les autoportraits de Balthus sont quand même relativement rares. Vous avez déjà vu, bien sûr, l'autoportrait dans la toilette de Cathy. Voilà ici un dandy romantique de 1935, avec les yeux ténébreux, une partie du visage dans l'ombre. Je vais y revenir sur ce tableau qui est quand même important. En 1940, un tableau qu'il peint à la campagne, pendant la guerre, il quitte Paris et va habiter à côté d'Aix-les-Bains dans un endroit qui s'appelle Vernatel. Et voilà ici un autoportrait de 1940. Vous avez ici tout à fait un style qui nous rappelle les peintres français des XVIIe, XVIIIe siècles. On imagine tout à fait ici Chardin à la place de Balthus. Il est myope, donc il a le front légèrement plissé, hein, il voit très très mal. Il est face au miroir, et donc il peint ce qu'il voit, ce qui fait que Balthus est droitier, il a le chiffon à la main gauche et le pinceau à la main droite, mais comme le miroir lui renvoie à l'inverse, bien sûr, il peint ce qu'il voit. Hein, tout à fait. Enfin, un dernier autoportrait, c'est son dernier, 1949, dernier autoportrait de Balthus, qui est intéressant, parce que là, il se représente en artisan peintre, en blouse de travail maculée de peinture, un gant, une boîte, peut-être une boîte qui a emballé un de ses tableaux. Il revendique ici le statut d'artisan. C'est son dernier autoportrait officiel, même si Balthus réapparaît parfois dans certains de ses tableaux. Il réapparaîtra ici dans le passage du commerce Saint-André, où Tout le monde s'accorde à dire que le personnage ici, avec la baguette, que vous pouvez considérer soit comme une baguette de pain, soit comme une baguette magique, je vous laisse la liberté du choix, c'est manifestement Balthus. Balthus, on le retrouve tout simplement ici dans ce tableau, le peintre et son modèle, tableau tardif de 1980, où l'on constate ici que, comparé au tableau de Derain, où l'on avait le peintre au sein de ces tableaux, au côté de ces châssis, ici les références à la peinture sont relativement modestes. Le peintre et son modèle, qu'est-ce que l'on voit de peinture? Ici peut-être un flacon d'huile, un escabeau peut-être pour la peinture, l'atelier avec le grand vitrage, mais en fait le peintre et son modèle ici n'est pas du tout une peinture qu'on pourrait qualifier une peinture de peintre d'atelier. D'autre part, Balthus désormais se représente de dos. Constance, pour les tableaux où, qui ne sont pas vraiment des autoportraits, il est toujours représenté de dos. Quant à la jeune fille au premier plan, ses traits deviennent totalement idéalisés. Ça ressemble plus à une Madone de la Renaissance qu'à une jeune fille de 1980, même si elle lit, et on sait parfaitement, on sait qu'elle lit Tintin. Elle lit un album de Tintin, oui, au format, on reconnaît, paraît-il, l'album de Tintin. De toute façon, c'était tout simplement que Balthus l'a dit, qu'il préférait Tintin à Matisse, à cause du trait. Parce que la qualité du trait de Hergé lui rappelle la qualité du trait des calligraphes chinois, de la peinture chinoise, qu'il aime beaucoup. Bon, voilà donc ici Balthus. Balthus que nous retrouvons ici avec son autoportrait en roi des chats. Et les chats chez Balthus vont devenir absolument récurrents. Vous avez ici le premier exemple. Le premier exemple de chat de Balthus en 1935. Et puis, un autre exemple de 1981, qui est la couverture du programme d'un ballet de Roland Petit pour l'Opéra de Marseille, qui était sponsorisé par le savon Le Chat, d'où ce chat. Alors, ce tableau de 1935, vous voyez Balthus, en grand dandy romantique, le chat au premier plan, qui se frotte contre la jambe de Balthus et qui nous regarde, un tabouret avec un tableau sur lequel il y a marqué un portrait de Sa Majesté, le roi des chats, peint par lui-même en 1935. Et sur le tabouret, un fouet. Alors là, bien sûr, référence tout à simplement privée, c'est en 1935 que Antoinette lui annonce qu'elle a rompu avec son diplomate belge. Et la première lettre qu'il lui envoie est intitulée « Du roi des chats ». À The Queen of Cats. Voilà. Donc, manifestement, nous avons ici un Balthus vainqueur. Il a vaincu son rival. Et il se représente en roi des chats. Qu'est-ce que c'est que le chat pour Balthus? Le chat, c'est un animal libre. Et Balthus revendique sa liberté, et en particulier sa liberté artistique. Balthus n'a pas fait d'études. Il a eu quelques cours avec des amis de sa mère, en particulier deux ou trois séances de 20 minutes avec Pierre Bonnard, mais autrement, c'est un pur autodidacte. Il revendique cette liberté. D'autre part, le chat, il voit tout. Il voit tout, mais il ne dit rien. Donc le chat, c'est évidemment Balthus. Et le chat va devenir absolument récurrent dans la peinture de Balthus. Le fouet, les explications sont toutes plus fantaisistes les unes que les autres sur ce fouet. Bon, le chat serait un animal dompté par Balthus, mais vraiment les explications psychanalytiques, parfois fantaisistes, m'ont fait que je ne les ai pas renouvelées. C'est le premier exemple de peinture avec le chat de Balthus. Mais Balthus s'est toujours intéressé au chat. Il est né en 1908, 10 ans plus tard, en 1918, il dessine. il dessine 40 fois l'histoire d'un chat, Mitsu. 40 images par Balthus. Et ces dessins montrent, premièrement, la précocité de Balthus. Ces dessins ressemblent tout à fait à des bois gravés, qu'il connaissait par, évidemment, sa culture allemande et suisse. Ces 40 images représentent l'histoire d'un chat qui a été trouvé en Suisse, à Nyon, et qui va progressivement se perdre, être retrouvé par l'enfant, finalement va se perdre une deuxième fois, et l'enfant, finalement, malgré les recherches à la cave et partout dans les rues, ne le retrouvera pas et pleurera. C'est donc cette histoire faite en 1918 que Rainer Maria Rilke, ami de sa mère, va faire éditer, vous le voyez, à Zurich et à Leipzig en 1921. Et Balthus, à l'époque, vous voyez, il n'y avait pas encore la lettre H, il y avait un Z qui sera bientôt supprimé le jour où Rilke lui fera remarquer, comme je vous l'ai déjà dit, qu'un peintre belge s'appelait Balthus T-U-S. Donc, une indéniable précocité, une qualité du dessin dont on doute parfois, parce que lorsque l'on voit le gnome de la rue, instinctivement on se dit, mais il ne sait pas peindre. Alors qu'en fait, vous voyez à travers les portraits que tout cela répond à un choix précis, volontaire, inconscient, sans doute. Le chat chez Balthus devient récurrent. Voilà ici certainement son tableau, si ce n'est pas le plus grand, le plus important tableau de Balthus, c'est certainement le plus célèbre. Ce chat de la Méditerranée, il répond à une commande. En 1949, Balthus va donc peindre pour le restaurant La Méditerranée, qui est situé place de l'Odéon à Paris, une enseigne. L'enseigne ne sera pas mise dehors, mais elle sera mise à l'entrée du restaurant. C'est donc une commande. D'autre part, La Méditerranée, c'est bien sûr un restaurant de poissons et de fruits de mer. C'est aussi, dans le quartier de l'Odéon, un rendez-vous pour les artistes et les intellectuels de l'époque à Paris. Le restaurant existe toujours, mais a perdu de sa superbe. Voilà ici ce tableau. Alors, il est inhabituel chez Balthus, parce que vous aviez pu constater que vous n'aviez pas encore vu vraiment de ciel, pas vraiment de paysage. Ici, nous avons très nettement un tableau coupé en deux. Vous avez ici l'avant-port, ici un mât qui coupe le tableau en deux. À l'arrière-plan, la jetée avec le phare. Au premier plan, une jeune fille qui s'en va, qui fait signe. Un arc-en-ciel se transforme en poisson qui se termine dans l'assiette. Et une langouste dont vous remarquez que les deux antennes, oui, j'avais plus le mot, excusez-moi. Non, ça, c'est pas encore, c'est pas pour tout de suite. Les deux antennes se dirigent très nettement sur la jeune fille, un petit peu perçue déjà comme victime. Alors, bien sûr, on peut dire que c'est un tableau de commande, donc c'est un tableau qui vante la fraîcheur des produits de ce restaurant, puisque l'on va directement le poisson de la mer à l'assiette. Originalité de ce tableau, c'est le fait que, très nettement, et c'est la seule fois, Balthus se représente avec une tête de chat. C'est la seule fois. Et puis, il y a cette jeune fille qui est dans le port. Alors, soit elle nous fait signe que tout va bien, ou plutôt, elle s'en va. Donc, cet épisode était resté mystérieux. Le tableau, on le prend au premier degré, comme cela. Et puis, bien sûr, des historiens de l'art se sont penchés sur la vie de Balthus, etc., en détail, et ont découvert qu'en 1947, Balthus déjeunait, je ne sais pas Jean Lépin, mais c'est à côté, Je vais vous donner même exactement le lieu, il faut que je retourne. Non ? Ça suffit, ça va. Bon. Alors, on est au bord de la Côte d'Azur, un repas sur un quai avec la vicomtesse de Noailles, qui était une mécène pour les artistes à l'époque et pour Balthus en particulier. Et lors de ce déjeuner, il y avait la fille de Bataille, la fille de Georges Bataille, qui avait 17 ans et qui a fugué, qui a trouvé que le repas s'éternisait était déplaisant. Elle a pris une barque et elle a quitté le repas. Et donc, il semble que Balthus ait été absolument ébloui par ce geste d'indépendance au cours de ce repas, et qu'il ait donc contacté la jeune fille. Et voilà ce que dit Catherine Millot dans ses mémoires publiées cette année, La vie avec Lacan, où elle raconte donc ce qu'a vécu Laurence Bataille, la fille de Georges Bataille. Cette jeune femme que vous avez vue sur la barque, Balthus s'est intéressé à elle et elle va donc rentrer dans la vie de Balthus, dans un premier temps comme modèle, dans un deuxième temps dans son lit et dans un troisième temps dans sa vie où elle restera la compagne de Balthus jusqu'en 1951. Donc, inutile de vous dire que je vous raconte cela, mais que Balthus serait absolument horrifié que l'on ose décoder son tableau. Pour lui, son tableau, il vit par lui-même. Et ce n'est finalement que récemment que nous avons ces interprétations et que l'on sait quelles sont les personnes concernées. Ces jeunes filles, désormais, nous allons les retrouver souvent dans la peinture de Balthus. Et nous allons passer d'un érotisme provocateur à un érotisme bientôt sublimé, puis bientôt à plus d'érotisme du tout. À la fin de sa vie, Balthus ne cessera de dire, de répéter que ces jeunes filles nues, ce sont des anges. Lisez les mémoires de Balthus. Les mémoires de Balthus ont été recueillies par Alain Vircondelet à la fin de la vie de Balthus et n'ont été publiées qu'après la mort de Balthus. Il ne cesse de répéter que ces jeunes filles sont des anges. Mais avant d'être des anges, il y a quand même différentes périodes chez Balthus. Voilà donc ici, par exemple, Thérèse. Thérèse, vous vous en souvenez, elle était avec son frère dans Les Enfants Blanchard de 1937, où ils étaient écoliers. À l'époque, j'ai oublié de vous montrer les cartables qui étaient sous la table. Voilà donc ici Thérèse en 1938, qui pose dans un fauteuil Voltaire, qui fait l'amour manifestement parce qu'elle est assez fatiguée de ces interminables séances de pause que lui impose Balthus. Cette Thérèse, nous la retrouvons ici dans le tableau Thérèse rêvant de 1938, qui est un tableau quand même beaucoup plus intéressant. Vous avez Thérèse ici, avec son beau corsage, sa petite jupe en laine rouge. Vous repérez surtout son jupon de coton et de dentelle et sa petite culotte blanche. C'est donc un tableau là où Balthus montre ce que l'on ne doit pas montrer, où Balthus montre ce que les jeunes filles, on leur a toujours dit de cacher. Donc c'est montrer ce qui est caché, et donc cette position des petites culottes chez Balthus et des jambes écartées, nous allons les retrouver à travers cette volonté de montrer ce que l'on ne doit pas montrer. Un tableau ici très polémique, très provocateur, puisque à la jeune fille et sa culotte blanche répond le chat qui est en train de laper du lait blanc dans l'axe de la jeune fille. Donc un tableau provocateur qu'il ne refera plus après. Après, nous tombons dans des positions un peu moins provocantes, comme cette jeune fille au chat de 1937, même méridienne dans l'atelier de Balthus, presque la même pose, dont les spécialistes ont retrouvé l'origine dans un savon américain de 1901, savon que Balthus a connu à travers un collage de Man Ray de 1935. ces jeunes filles deviennent récurrents chez Balthus. Et voilà, nous arrivons ici à deux tableaux clés de Balthus, qui sont de très beaux tableaux par leur composition. Premier tableau, les beaux jours. Nous ne sommes pas dans une chambre, nous sommes non pas dans un atelier, nous sommes certainement dans un salon, hein, comme nous l'indique le fauteuil. Vous avez la jeune fille qui se contemple dans un miroir, thème fréquent dans l'art, hein, depuis Bellini ou le Titien, et que l'on retrouvera très souvent chez Balthus, ces jeunes filles au miroir. Vous remarquez tout de suite la lumière qui vient de la gauche. En revanche, à droite, vous avez un homme qui est en train d'attiser le feu. Il attise tellement le feu qu'il en est rouge. En fait, il porte un pull. Si vous regardez bien, il y a des manches. Hein. C'est pas rouge uniquement du feu. Donc, ce feu, bien sûr, apporte une lumière. Donc, la construction du tableau est fascinante puisque vous avez la lumière de gauche et la lumière de droite. Je me suis encore trompé, excusez-moi, qui se retrouve dans cette jeune fille qui semble parfaitement innocente. Et tout l'érotisme de ce tableau vient évidemment du feu et donc de la sexualité supposée de cet homme face à l'innocence de la jeune fille qui cependant a les jambes ouvertes tout en étant autrement nue, puisque dans le tableau suivant que nous allons voir maintenant, la jeune fille a des chaussettes blanches. Alors je regrette de ne pas avoir trouvé de meilleure qualité de reproduction pour ce tableau. C'est le dernier tableau peint par Balthus à Paris, qu'il va quitter de façon définitive en 1953. Ce tableau s'appelle La Chambre. Hein, une chambre, pourtant il n'y a pas de lit. Bon, vous allez me dire, il y a une armoire méridienne, il y a le broc et la cuvette pour... C'est moi qui me trompe sans cesse, excusez-moi. Hein. Le broc et la cuvette qui sont en verre. Sur la table, un chat qui a une allure absolument furieux, mécontent, bizarre, et au premier plan, un gnome. Un gnome, et ce gnome nous rappelle le gnome que nous avons vu dans le tableau La Rue. Que représente cette scène? Bon, alors vous pouvez y voir tout simplement l'image d'une jeune fille qui offre son sexe à la lumière du jour et donc à la chaleur du soleil. Donc on pourrait y voir un tableau innocent. On peut y voir aussi un tableau moins innocent, une jeune fille prenant du plaisir. La reproduction est de mauvaise qualité, mais grosso modo, les mains ici sont un peu rougies et le visage serait rougi. Voilà donc deux versions, disons, positives et heureuses de ce tableau. La troisième version, c'est beaucoup plus négatif, ce serait la jeune fille qui vient d'être l'objet d'un viol. Objet d'un viol, et le chat symboliserait le mécontentement face d'avoir vu ce viol. Un viol qui fait qu'on aurait violé la pureté du verre, ici, hein, puisque le broc et la cuvette sont transparents, que le bras ici est raidi comme si la jeune fille était déjà morte, et qu'en fait ce viol répond à une jeune fille de mauvaise vie, puisque dans l'érotisme masculin, on aime beaucoup les femmes avec des jarretelles, et qu'ici, la jeune fille avec les chaussettes blanches nous rappellerait cet imaginaire masculin. Donc, certains voient dans ce tableau indéniablement une scène de viol. Et ce qui vient un peu à l'appui de cette thèse, c'est tout d'abord, bien sûr, les références au tableau du Suisse Fuseli, ici, Le Cauchemar, dans les positions alanguies. Mais, rappelez-vous, en 1953, lorsque Pierre Klossowski écrit Roberto ce soir, où il y a une scène de viol, eh bien, Pierre Klossowski avait demandé à son frère Balthus d'illustrer ce roman et qu'il n'a pas été satisfait des réponses de son frère. Donc vous voyez ici l'illustration de Pierre Klossowski pour son roman, et la version peut-être du viol vue par Balthus. Bon, après cet épisode dur, qui est peut-être la scène de viol dans la chambre, nous allons voir maintenant des nus beaucoup plus doux, beaucoup plus agréables chez Balthus. C'est le cas de cette jeune fille dans une chambre bleue, où l'on voit la perfection ici du corps, une immense chevelure, et vous voyez que tout a été parfaitement construit à partir de la cheminée. Si l'on veut sortir de l'optimisme, on s'apercevra que ce miroir ne semble pas refléter quoi que ce soit et qu'il est parfaitement noir. Donc, ce nu devant la cheminée, effectivement, va marquer le changement chez Balthus, qui veut que désormais, ces jeunes filles, ce soient des anges. On a prétendu que mes jeunes filles dévêtues étaient érotiques, je ne les ai jamais peintes avec cette intention qui les aurait rendues anecdotiques, bavardes. Or, je voulais justement le contraire, les entourer d'une auréole de silence et de profondeur, créées comme un vertige autour d'elles. C'est pour cela que je les ai considérées comme des anges, thème sur lequel il revient très souvent. Repérez le mot qui les aurait rendus anecdotiques. C'est une des clés de Balthus. Il ne veut pas que l'on réduise ses tableaux à des anecdotes. Ce sont des tableaux, finalement, qui touchent à une certaine intemporalité. Ces nus de Balthus qui vont faire sa célébrité pour ceux qui ne voient en Balthus qu'un peintre érotique, ces nus vont progressivement être dans des lieux beaucoup plus, disons, positifs, agréables. Un cas particulier, regardez le drap bleu de 1958, qui est un nu étonnant dans la production de Balthus. Vous avez ici une jeune fille, parfaitement construite, puisque l'axe, ici, du pubis, est absolument dans l'arête du mur, ici. Vous avez une jeune fille avec un drap bleu qui fait que ce drap bleu s'élève et cache une bonne partie des seins, ce qui fait que notre regard s'éloigne des seins pour être attiré par le pubis de la jeune fille. Étonnant chez Balthus, pour une fois, nous avons un décor presque contemporain avec tapis de bain, baignoire. Vous avez aussi un paysage que l'on voit à travers la fenêtre, donc différents plans successifs. Vous voyez ici le sapin qui se reflète ici dans la fenêtre. C'est très nettement ici un clin d'œil de Balthus à Bonnard. Hein. C'est très influencé par Bonnard, et ce qui le prouve, c'est que l'on a un tableau de Bonnard où Marthe, sa compagne, a quasiment les mêmes mules vertes. Vous allez me répondre, ce n'est peut-être pas... Bon. Peut-être pas suffisant pour attribuer cela à une influence de Bonnard. En tout cas, point de détail, eh bien, regardez une bouteille de Saint-Ol. Le Saint-Ol de votre enfance, qui réapparaît maintenant, eh bien, c'est le seul exemple que l'on a un peu de référence chez Balthus. Balthus, vous avez déjà vu, hein, c'est un peintre qui est éthéré. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de publicité, il n'y a aucune référence. Nous vivons dans un monde hors de l'anecdote. Le temps passant, je vais peut-être passer très vite sur certains tableaux de Balthus, comme ces tableaux de rêve de 1956, où vous voyez que Balthus ne peint pas des déesses grecques, jamais. Il ne peint pas des nymphes, il ne peint pas des satyres. Il est dans le monde réel, et même si une fée apporte des objets, eh bien, par exemple, ici, le rêve de la jeune fille, l'ange va porter, c'est moi qui me trompe, j'ai fait une petite erreur. Merci. Ici vous remarquez que l'ange ici a... J'ai du trop gros doigt, ça doit être ça. Vous voyez ici, l'ange apporte une fleur. Or, cette fleur, elle vient tout simplement du bouquet qui est là. Hein, nous sommes dans un monde tout à fait réaliste. Il n'y a pas de magie. Bon. Balthus est un peintre qui ne peint qu'à la lumière du jour. Pas de lumière artificielle. Il ne peint que lorsqu'il fait jour, et jusqu'à la fin de sa vie, il ne peindra qu'à la lumière du jour. Il n'a donc peint qu'une seule fois une nuit, ici, cette jeune fille qui essaye d'éviter à ce que la falaise ne soit pas brûlée par la lampe à pétrole. Il y a donc tout un travail absolument extraordinaire chez Balthus, déjà au niveau des techniques. Il commence à utiliser de la caséine, c'est-à-dire cette protéine de lait qui donne un tableau extrêmement mat, qui fait que les tableaux de Balthus, à partir de cette date, ressemblent quasiment à des fresques, des fresques de la Renaissance ou même des fresques antiques. Ce sont des tableaux qui deviennent extrêmement lourds, difficiles à transporter, extrêmement fragiles, et qu'on hésite même maintenant à prêter à des expositions parce que vous voyez des pans entiers de morceaux de ces tableaux qui tombent. Donc il y a tout un travail technique où Balthus Artisan veut retrouver les techniques des artistes de la Renaissance. Il y a d'autre part ce travail, c'est un tableau qu'il adorait, Balthus, celui-là. Un travail absolument essentiel pour essayer de montrer la légèreté, la transparence de la falaise, du vol de la falaise et le mouvement de la jeune fille pour éviter qu'elle se brûle à la lampe à pétrole. Pour Balthus, c'est un de ses tableaux préférés. Je ne vais pas vous parler des 8 tableaux de jeu faits par Balthus, où on verrait essentiellement les références aux tableaux du Caravage et des Le Nain, car il faut quand même arriver au fait que pour l'instant, vous n'avez vu que le monde en atelier, les intérieurs. Or, Balthus, c'est quand même aussi un peintre d'extérieur. Un peintre d'extérieur, d'autant plus que dans sa liste de peintres qu'il adorait, il adorait Courbet, et il était absolument fasciné. Il y a eu, il y a quelques années, une exposition Balthus-Courbet à Ornans. Un de ses tableaux d'extérieur, pourtant, montre les limites de Balthus et le monde extérieur. En 1931, il fait son service militaire, il est français. Il est donc envoyé au Maroc, à Kénitra et à Fès, où il va être au service à l'état-major à Fès. Est-ce qu'il va être marqué par son séjour marocain? Non. Il envoie une lettre à Antoinette. Je n'aime pas l'exotisme. Donc, pas de tableau orientaliste. Il découvre Fès. Il dit que c'est joli, mais c'est tout. Pas de goût. Et si vous regardez bien cette caserne où nous trouvons ici, c'est le seul tableau qu'il ait fait c'est le seul tableau qu'il ait fait à son retour du service militaire. Et même pendant son service militaire, on a plus d'une dizaine de dessins. Tableau figé, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces personnages finalement ont des chapeaux comme chez Piero della Francesca, que vous avez ici des tours crénelées et des arbres qui sont plus près des artistes italiens de la Renaissance que du monde marocain de l'époque. Donc Balthus, il a beau essayer de peindre en extérieur, il peint avant tout son propre monde, ses propres références. Pourtant, Balthus, en 1935, s'essaye au chef-d'œuvre. Il décide de produire un tableau monumental de plus de 3 mètres sur 2,50 mètres, La montagne, qu'il termine en 1937, et pour lequel il revendique l'idée de créer un chef-d'œuvre. 6 personnages au premier plan, un 7e à l'arrière-plan qui fait le délice des psychanalystes, puisque c'est Balthus de dos qui s'en va. Voilà, oui, c'est lui. Un tableau qui est très intéressant par son découpage entre ombre et lumière. L'ombre et la lumière chez Balthus, c'est le yin et le yang chez les Chinois. Balthus est très influencé par la peinture chinoise, par ses ombres et lumières, aussi par ses positions de personnages dans l'inscription dans le tableau. Vous avez ici une jeune femme debout, c'est Antoinette. Une jeune femme couchée, qui reprend la position d'un tableau de Poussin, consacré à, Aiko et Narcisse, c'est un modèle anglais chez la Pickering. Et autrement, vous avez des amis de Balthus qui sont dans un paysage très connu, très référencé, au-dessus du lac de Thun, dans la région de Berne, en Suisse. Un paysage qui est vu ici comme si c'était un grand angle, comme si on avait une vue photographique, avec aussi un découpage des roches qui crée une certaine artificialité, toujours revendiquée par Balthus. Balthus, ce n'est pas uniquement, comme on pourrait le penser, des paysages de montagne liés à la Suisse qu'il aimait. On a aussi ce paysage de plaine de la Beauce avec le village de Larchamps, qui avait été à l'époque retrouvé. L'église romane de Larchamps était en cours de restauration et avait été vantée par les poètes de l'époque. On a trois poèmes de Pierre-Jean Jouve sur Larchamps. Un tableau parfait au niveau de la construction entre ligne horizontale et verticale, et un tableau qui permet à certains historiens de l'art de délirer totalement, puisqu'ils voient dans ce clocher de Larchamps une guillotine. Et qu'ils expliquent, entre autres, par le fait que pendant quelques mois, Balthus a vécu dans le 14e arrondissement, près de l'endroit où il aurait pu voir en 1933 une exécution avec la guillotine. Paysage de Charovant, nous sommes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous ai mis ce texte du critique d'art Philippe Dagen, qui montre un petit peu pour lui les limites de Balthus. Charovant, nous sommes près d'Aix-les-Bains, et c'est là que se réfugie Balthus pendant la Deuxième Guerre mondiale, à côté de la maison où habitait d'ailleurs Gertrude Stein, qui lui a acheté quelques tableaux. Paysage parfait, on sent ici, non pas vraiment le grand peintre, bien sûr, mais celui qui maîtrise parfaitement la lumière sur les feuilles, qui maîtrise parfaitement les plans, les variétés de couleurs sur les plans. C'est un tableau parfait, mais en dehors de parfait, c'est un tableau qui n'a pas d'âme, bien sûr. 1953, Balthus abandonne définitivement Paris. Il s'installe donc au château de Chassy, dans le Morvan. Et il peindra le Morvan sans sortir de son château. Par exemple, il va peindre 8 fois cette cour de ferme, mais il la peint de la fenêtre donnant sur l'est. C'est la cour de ferme. Tableau d'ailleurs extrêmement intéressant, puisque l'on voit ici le personnage, le fermier ici, puisque ce château faisait aussi office de ferme, le fermier Riri ici qui se fond dans le paysage. Vous avez un plan très bien précis entre ici la limite du château et de la cour de ferme, qui est marquée par des rigueurs horizontales, une horizontalité et une verticalité bien précises, alors que l'arrière-plan, ici le paysage, est marqué ici par des collines, et vous avez les ramages de l'arbre qui font la liaison entre ces deux éléments. On a aussi au niveau de la construction le fait que vous avez un champ ici plus coloré auquel répond ici les triangles du soleil dans la cour. Château de Chasse, cour de ferme qu'il va peindre 8 fois, je le répète, sans sortir de son château. Ici, nous avons des vues côté est. Ici, nous sommes côté nord, avec les champs triangulaires. Et nous arrivons au côté ouest avec cette jeune fille à la fenêtre. Et je pense qu'il n'est pas ça, j'ai dû faire une erreur, je pense qu'il n'est pas 1953, mais 1955. Ce qui est important parce que ce n'est pas la même jeune fille. En 1955, il vit désormais avec Frédérique, une jeune fille de 16 ans, qui est sa nièce par alliance. Son frère Pierre a épousé une femme qui avait une jeune fille Donc, c'est la belle-fille de Pierre Klossowski, qui était une fille ascolaire, etc., qui fuguait, et elle s'est réfugiée chez son oncle Balthus en 1955. Elle vivra avec lui jusqu'au moment où il est nommé à Rome. Elle le suivra à Rome en 1961, mais en 1962, lorsqu'il rencontre la japonaise Setsuko, elle doit faire ses valises et rentrer à Chassis, où elle habite toujours. Bon, ça, c'était mon côté ici Paris. Bon, allez. Ce tableau, jeune fille à la fenêtre, est un des tableaux les plus célèbres de Balthus, parce que c'est mignon, c'est gentil, hein, ça, c'est gentil, et surtout, là, les références coulent de source. On a bien entendu la référence au célèbre tableau de David Friedrich avec cette jeune femme mélancolique à la fenêtre, le tableau du Suisse Maurice von Schmidt, qui lui est un tableau optimiste, hein, puisque la jeune fille, on voit qu'elle attend quelqu'un et que derrière, dans le paysage, il y a le soleil, donc vous avez soit la mélancolie, soit la vision plus souriante, et puis vous avez aussi le tableau danois de Eckersberg avec l'escabeau, qui nous rappelle effectivement la chaise de Balthus. Alors, vous pouvez y voir une vision tout à fait optimiste de la jeune fille qui regarde et qui attend quelqu'un dans un paysage ensoleillé. Vous pouvez au contraire y voir un aspect mélancolique à travers cet appartement qui semble absolument vide, déserté. À vous de choisir votre version, mais bien entendu, les références ici sont très, très évidentes. D'ailleurs, Balthus, qui n'aimait pas les photographes, qui n'aimait pas les journalistes, a accepté une seule fois pendant son période à Chassis, de recevoir un photographe américain en 1957. Et voilà ici, vous voyez ce qu'en a tiré Life, la référence quand même à ce tableau. Pendant cette période de Chassis, c'est une période très très faste. Excusez-moi, je regarde. Je ne finirai jamais. Bon, pendant cette période très faste de Chassis, vous avez Balthus qui va peindre des natures mortes aussi, comme celle de droite, qui est une nature morte à la lampe, qui a beaucoup de défauts, elle est surchargée. Mais la surcharge du tableau est compensée par le fait, cette impression, cette volonté de non-finitude sur la bordure, ce qui donne une certaine beauté et chaleur à ce tableau. Mais évidemment, le chef-d'œuvre de cette période, c'est le passage du commerce Saint-André, tableau qu'il a commencé à Paris et qu'il dit bien qu'il n'a pu le terminer que parce qu'il avait quitté Paris et qu'il était à Chassis. Tableau mystérieux, le deuxième tableau clé de Balthus avec la rue. D'ailleurs, vous voyez ici le tableau, la rue, avec la vue actuelle de la rue de Fürstenberg que j'ai pris le mois dernier. Et ici, le passage Saint-André, on est 100 mètres plus loin, mais malheureusement, l'auvent du restaurant à droite fait que la photographie n'offre pas grand intérêt. Plus intéressante serait la photographie des années 50 de ce passage du commerce Saint-André. Tableau clé pour l'œuvre de Balthus, un tableau très construit, avec quasiment le même nombre de personnages que dans la rue, 9 dans la rue, là où on en a 8 plus, soit un chien ou un mouton si vous préférez, hein, si vous pensez que c'est un tableau religieux, ce sera un mouton, mais on peut peut-être plutôt y voir un chien tout simplement. 8 personnes, il y en avait 9 dans la rue, donc le 9e ce sera la poupée, mais autrement on retrouvera le gnome, presque, hein, ici l'homme qui est à droite. Un tableau toujours caractéristique de chez Balthus, pas d'ouverture, pas de ciel, un tableau fermé, peu de fenêtres ouvertes, il y en a quand même plus que dans la rue. Vous avez quand même ici un tableau très référencé, mais pourquoi l'a-t-il recopié, comme par exemple cette clé qui annonce la boutique du serrurier d'à côté? Nous sommes ici au 8 de ce passage du commerce Saint-André. Or, au numéro 9 de ce passage, c'est là qu'il y a eu les essais de guillotine. Voilà, les bottes de paille avec lesquelles on a testé la guillotine. Donc, il y a un historien de l'art qui pense que beaucoup de tableaux de Balthus sont liés à la mort. D'où l'église de Larchant. Une jeune fille ici au premier plan. Ici, des personnages qui nous emmènent vers la femme voûtée, ici, qui se dirige ici vers l'ouverture. Donc on a une ouverture, comme vous le voyez, hein, ici. Et là, c'est Balthus. Balthus qui se peint de dos, Balthus avec sa baguette, et Balthus qui, un peu comme dans le tableau La Montagne, où il s'éloigne, ici, il s'éloigne. De quoi s'éloigne-t-il? D'un monde désespéré? Est-ce qu'il s'éloigne des âges de la vie? Vous avez les trois âges de la vie qui sont représentés. En tout cas, c'est manifestement une baguette magique qui permet au peintre de se sortir de ce cercle que représente pour lui le passage Saint-André. Tableau donc clé et pratiquement le plus célèbre de Balthus. Je vais donc terminer en quelques minutes pour évoquer maintenant le fait que Balthus va devenir non seulement célèbre, riche, reconnu. Il a toujours vendu ses tableaux très chers. Il vendait peu, il avait quelques mécènes, mais il n'a jamais tergiversé. Il vendait ses tableaux très, très chers. En 1961, il est invité par André Malraux à la Villa Médicis à Rome, qui vivait un petit peu dans le passé, dans le souvenir. Il est donc chargé par André Malraux de redynamiser la Villa Médicis, de lui redonner du lustre, ce qu'il fera d'ailleurs. Donc cela va se faire aux dépens du travail artistique de Balthus, et le nombre de tableaux sera très limité pendant toute cette période où il est directeur, entre 1961 et 1977. Vous avez ici quelques dessins du château qu'il a acheté à Monte Calvello, qu'il ne peindra jamais, un nu au repos caractéristique, mais la plus belle œuvre de cette période, c'est évidemment la chambre turque. Dans la Villa Médicis à Rome, il y a une chambre turque, vous voyez ici le carrelage de cette chambre, une chambre orientalisante qui avait été créée par Horace Vernet, le peintre qui avait été directeur de la Villa Médicis entre 1828 et 1835. C'est donc dans cette chambre turque que Balthus passe cet asiatique, alors qu'a priori, il n'aimait pas ni l'exotisme ni l'orientalisme. Très beau tableau, là où l'on voit tout à fait le jeu de couleurs. Un tableau très facilement divisable en proportions, 5 sur 6. Un respect des couleurs qui en font un chef-d'œuvre un peu éthéré, mais un chef-d'œuvre quand même. Une jeune fille, désormais une Asiatique, qui répond bien sûr à la rencontre avec sa femme Setsuko. Setsuko qu'il peindra plusieurs fois. Voilà ici deux tableaux où il peint sa femme Setsuko avec ses tenues japonaises. Vous avez peut-être remarqué déjà dans les photos que je vous ai présentées au début que Balthus était en kimono. Et en plus, désormais, il va apprendre le japonais. Ces tableaux sont intransportables du fait de la caséine utilisée. Et puis, ce sont des tableaux qui se veulent, même si le temps a passé, c'est quand même des tableaux un petit peu érotiques, puisque ces femmes se regardent dans un miroir, et la tradition japonaise explique que les femmes japonaises se regardent dans le miroir après l'amour. Voilà donc ici l'épisode qui se termine en Italie. Et en 1977, Balthus achète donc le chalet de Rossinière, le plus beau chalet suisse qu'il peut acheter. Grâce à Pierre Matisse, son galériste, il lui promet Pierre Matisse lui achète 4 tableaux et il peut donc acheter le chalet. Comme Balthus ne livrera pas les 4 tableaux à temps, eh bien Pierre Matisse imposera un 5e tableau pour payer le chalet. Et ce chalet, il y a le chalet proprement dit, et il y a l'atelier de Balthus que vous voyez ici, laissé en état à la mort de Balthus en 2001. Et cette année, à la FIAC 2016 à Paris, il y avait une jeune artiste, Katerina Jepp, qui proposait que vous achetiez une sérigraphie du cendrier de Balthus. Et vous voyez que ce cendrier Balthus est resté en l'état avec les mégots depuis 2001. Balthus, d'ailleurs, suffisamment rigoureux dans son langage, ne parlait jamais de cigarettes, mais parlait toujours d'herbanico. Voilà. Le cendrier ne vaut, la sérigraphie ne vaut que 300 euros. Hein. C'est pas au niveau de l'art contemporain, vous pouvez l'acheter. Donc, je terminerai avec les derniers tableaux de Bastus, cette série de chats au miroir. On retrouve le chat, on retrouve la jeune fille nue, mais l'âge passant, la vieillesse arrivant, les jeunes filles s'habillent progressivement. Vous remarquez que ces jeunes filles n'ont pas d'ombre. Et surtout, bien sûr, le point fondamental, c'est que les jeunes filles ne se regardent pas dans le miroir, mais c'est le chat, désormais. Hein, elles montrent le miroir au chat. Et ce miroir, c'est donc un thème tout à fait nouveau. Balthus, qui avait une grande culture, savait très bien que le seul exemple où une jeune femme présente un miroir à l'animal, c'est la Dame à la licorne, la tapisserie du musée de Cluny, où la licorne se voit dans le miroir, ce qui en fait un symbole de vanité. Ici, c'est manifestement pas un symbole de vanité. On pourrait y voir simplement une évolution de Balthus où le chat ne devient plus qu'un élément d'un jeu. Mais le grand spécialiste dont je vous ai déjà parlé, Jean Clerc, estime que ce serait trop simple et qu'il faut y voir plutôt une image un petit peu magique où vous avez dans le dernier tableau un chat aux yeux d'or hein, qui cherche à trouver le sésame dans la main de la jeune fille. Vous voyez aussi, également à travers ces trois chats au miroir de la fin de la vie de Balthus, une évolution au niveau des couleurs. Et cela s'explique par le fait que Balthus voyait de plus en plus mal, il a fini aveugle, et il ne pouvait plus utiliser de jeunes filles comme modèle, donc il avait quand même des jeunes filles, mais très peu de temps, donc il faisait des polaroïdes à la fin de sa vie pour servir pour les tableaux. Et ces polaroïdes nous sont désormais mis en vente par la famille de Balthus, estimant que c'est désormais ça atteint le statut d'œuvre d'art. Donc, les œuvres de Balthus vont évoluer en fonction de sa cécité progressive. C'est sa femme Setsuko qui elle-même revendique son statut d'artiste. Ah, voilà ici des gouaches de sa femme Setsuko. Et puis un livre qui lui a été consacré ici à gauche. C'est donc sa femme Setsuko qui, à la fin de sa vie, fait les mélanges, choisit les couleurs, répond aux ordres de Balthus. Donc ce dernier tableau, le tableau inachevé de Balthus, on ne sait pas s'il peut véritablement le revendiquer. Un tableau où l'on retrouve quand même la méridienne, la jeune fille nue, un instrument de musique, le chat, et une grande nouveauté qui annonce peut-être un chien. Voilà. Donc voilà comment se termine cette conférence sur Balthus. Balthus est manifestement un grand artiste, un solitaire. Un point étonnant chez Balthus, que vous avez pu remarquer, c'est un aristocrate qui se revendique comme tel, hein, monsieur le comte, obligatoirement, sinon, hein, c'est pas la peine de lui écrire. Les serviteurs, les employés de la Villa Médicis, 40 ans après, s'en souviennent toujours de monsieur le comte, ils n'en gardent pas un bon souvenir. Et à côté de ça, ben vous avez un Balthus qui ne peint pas du tout un monde aristocratique, il peint un monde presque irréel, c'est les lampes à pétrole, les bougies, une baignoire, mais la plupart du temps, c'est des brocs et des cuvettes. C'est un monde de jeunes filles simples. C'est pas du tout un monde aristocratique. C'est pas un monde aussi de référence aux dieux, aux fées. Donc, il y a une étonnante discontinuité entre le Balthus aristocrate et la peinture de Balthus. C'est manifestement un grand homme, un grand peintre, mais dans le bon sens du terme, je dirais pour finir que c'est un peintre anachronique. Merci.
Eh bien, merci. Qui veut intervenir ou poser des questions, c'est possible. Eh bien, Monsieur Corot, à la prochaine fois. Voilà.